France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, le trésor de Rennes-le-Château. Il existe en France, perché sur une colline de la région de Carcassonne, un village qui s'appelle Rennes-le-Château et qui compte une centaine d'habitants. Multipliez ce nombre par 10 et vous aurez un ordre de grandeur du nombre de livres écrits sur cet endroit. Multipliez-le par 1000 et vous aurez le nombre de visiteurs qui y passent chaque année. Enfin, multipliez-le par 1 million et vous obtiendrez le nombre d'exemplaires vendus d'un roman inspiré de sa légende, le Da Vinci Code. Car ce village cacherait un trésor. Seulement voilà, les chercheurs ne s'accordent pas sur sa nature. Et parmi les trésors traqués à Rennes-le-Château, citons du moins farfelu au plus invraisemblable, le trésor de la couronne de France, celui des cathares ou celui des templiers, la descendance cachée de Jésus, le secret de l'Atlantide ou une base extraterrestre, des théories extraordinaires qui font de ce village, selon certains, la capitale mondiale des mystères. Mais à l'origine, il y a bien une histoire réelle, d'où sa place dans cette émission. C'est l'histoire d'un curé, l'abbé Saunière, devenu très riche sans qu'on sache pourquoi. Et de cette affaire est née une légende. Si bien qu'à Rennes-le-Château, il y a plusieurs histoires en une. Celle de l'abbé et du trésor qu'il aurait découvert, puis celle de l'élaboration de la légende, ou comment, en un demi-siècle, l'histoire de Saunière est passée d'une publicité pour un hôtel du village à l'inspiration du Da Vinci Code, l'un des livres les plus vendus au monde. Notre invité aujourd'hui, Pierre Lagrange, anthropologue, chercheur associé à l'EH2S, spécialiste des parasciences, une science qui prend de la distance par rapport aux interprétations psychosociologiques des phénomènes mystérieux. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Romain Weber, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
D'abord, quel fil tirer pour raconter cette histoire? Où situer le début du mystère? Certains le feraient remonter à la crucifixion du Christ, d'autres vous raconteraient les trous, les souterrains, les explosions à la dynamite auxquelles Rennes-le-Château, ce village paisible, a fini par s'habituer. D'autres encore commenceraient par l'arrivée de l'abbé Saunière en 1885. Mais c'est par un autre bout que nous allons commencer ce récit. Par l'histoire d'un petit hôtel appelé l'Hôtel de la Tour et qui ouvre ses portes dans le village au printemps 1955. Le cadre est grandiose. Depuis le restaurant, les clients ont sous leurs yeux une grande et belle vallée, comme on en trouve dans les Corbières, à une quarantaine de kilomètres de Carcassonne. Rennes-le-Château est à 600 mètres d'altitude et offre donc un point de vue remarquable sur cette région reculée qu'on appelle le Razès. Le paysage alentour est façonné par le vent d'OTAN qui apporte la pluie et l'orage à un vent violent. Sur son passage, les arbres se couchent, les branches craquent, les vignes se brisent, les animaux s'agitent et les hommes aussi. On dit que ce vent récolte le blé avant eux. Alors, pour les paysans, c'est le vent du diable. Oui, à Rennes-le-Château souffle un vent dont on dit qu'il rend fou. Là, sur un promontoire rocheux regroupé comme une grappe, on trouve de vieilles maisons, pas en très bon état. Un château délabré et, dans le domaine de l'hôtel de la Tour, d'étranges constructions. Une tour, justement, qu'on appelle la tour Magdala, immense, surmontée de créneaux qui fait penser à un bout de château médiéval. Et une grande villa, la villa Betania, très belle, qui contraste avec le reste du village. Enfin, c'est un drôle d'endroit. Et le propriétaire est un drôle de personnage. Il s'appelle Noël Corbu. Retenez ce nom. Il est arrivé quelques années avant, en 1946. Et l'endroit dans lequel il a monté son hôtel est surtout somptueux, mais il est surtout au bout d'une route que personne ne prend. Alors, comment attirer les touristes jusqu'à ce village, loin de tout? Eh bien, Noël Corbu a une idée. Il accueille les visiteurs en leur faisant écouter une histoire enregistrée sur une bande magnétique. Cette bande, nous ne l'avons plus, mais le contenu, nous le connaissons. Ça commence par « L'histoire de Rennes-le-Château se perd dans la nuit des temps ». Il n'en reste plus grand-chose, mais figurez-vous que ce hameau a 2 millénaires derrière lui. Des guerres de César aux croisades contre les Cathares, au XIIIe siècle, Rennes-le-Château était le témoin de la grande histoire. Et le passé remontait à la surface à la fin du XIXe siècle. L'ancien propriétaire du domaine, un certain Béranger Saunière, a découvert un trésor. Et ce trésor est encore là, caché. Oui, conclut le message enregistré, dans ce modeste village dort l'un des plus fabuleux trésors qui soit au monde. Arrivés au bout de la bande, les clients normalement font leur choix et attendent leur repas en imaginant les monceaux d'or enfouis quelque part autour d'eux. Ils reviendront sûrement. La stratégie de Noël Corbu fonctionne. Il est invité pour la première fois à la radio en 1958 dans l'émission « Le Club des chercheurs de trésors ».
Vous devez tout de même savoir quelque chose, parce que vous faites beaucoup de fouilles. Vous avez un véritable petit musée. Vous avez déterré d'ailleurs des squelettes de Visigoths, vous avez des poteries, vous avez un tas de choses que vous montrez volontiers.
C'est exact.
Mais je me doute que ce n'est pas tellement ça que vous cherchez, avec vos pioches, vos pelles.
Ah mon Dieu, non. Enfin, quand on trouve quelque chose, on est bien content. Mais enfin, ce que l'on voudrait trouver, c'est autre chose.
Avouez aussi, quand vous m'avez dit qu'il serait bon de chercher du côté de Roquefumade, vous vouliez m'aiguiller là-bas pour que je n'aille pas tellement au cimetière. Il faut pourtant chercher dans une tombe, car j'ai rencontré à Rennes-le-Château un brave homme qui, avec un air un peu mystérieux, m'a dit « Ah, si on creusait sous une tombe du cimetière, car il avait la sang là-bas. » Il me dit « Eh bien, on trouverait l'entrée du souterrain. » Je lui ai demandé « Mais quelle tombe ?» Ah, il m'a dit ça. Voilà, il faudrait savoir laquelle. Mais le secret du curé au milliard est dans une tombe.
Bien, mais qui est-il ce curé au milliard, Béranger Saunière ? D'abord, sachez que dans l'histoire de cet homme, il est impossible de distinguer le vrai du faux. Cette affaire était tellement fantasmée, transformée, exploitée, que la vérité est brouillée pour toujours. Mais essayons tout de même. Béranger Saunière naît en 1852 dans un village à côté de Rennes-le-Château. Il devient prêtre à 27 ans. Et c'est à 33, en 1885, que lui est confiée la paroisse. C'est un village pauvre qui compte 200 habitants. L'église date du XIe siècle et Saunière la trouve dans un état déplorable. Les vitraux sont éclatés, la toiture se disloque et son presbytère est dans un état pire encore. Donc, il faut réparer tout cela. Oui, mais avec quel argent ? La paroisse n'en a pas, Saunière non plus. Alors, il sollicite un prêt et obtient une petite somme pour les rénovations. Les travaux commencent, et avec eux, la légende. Saunière entame-t-il ses travaux simplement pour remettre son église sur pied ? Ou a-t-il autre chose en tête ? Après tout, c'est un enfant du pays. Il est possible qu'il ait entendu certaines histoires. Et ce n'est pas ce qui manque des histoires en Occitanie, en plein pays cathare. De plus, Saunière est un homme cultivé, curieux, déterminé. Peut-être est-il déjà à la recherche de quelque chose. Nous ne savons pas. Ce que nous savons, en revanche, c'est qu'il fait une découverte. Georgette Verdier-Cordier, une habitante, se souvient en 1989 de ce que lui racontait son père.
Papa disait toujours qu'il avait vu des ouvriers quand il a travaillé dans l'église, quoi, la sacristie, et que quand il est arrivé à une certaine pierre, il a fait partir les ouvriers. À partir de ce moment-là, c'est lui qui a pris les travaux en main. Mais il avait dû trouver, d'après ce que disait mon père, j'avais dû trouver des documents.
Saunière aurait donc trouvé des parchemins dans une colonne de l'église. On ne sait pas de quoi il s'agit. Mais il semble que ces précieux documents aient été écrits en latin et en vieux français et que Saunière les ait trouvés intéressants. Voilà ce qui se dit. À la suite de sa découverte, il se rend à Paris à l'église Saint-Sulpice. Il en revient avec une traduction. Et, de retour à Rennes-le-Château, il entreprend des fouilles, comme si l'étude des parchemins lui avait donné des indications. C'est le cimetière qui l'intéresse. Alors, avec sa bonne, qui s'appelle Marie Desnarteaux, il creuse. Une tombe en particulier attire son attention. Celle d'une certaine comtesse d'Hautpoul de Blanchefort. Nous ne savons pas ce qui conduit Saunière à s'y intéresser, mais il aurait pris soin d'effacer à coups de burin les inscriptions qui se trouvaient sur la pierre tombale, ce qui n'est certainement pas innocent. Alors, quelle importance avaient ces inscriptions ? Mystère. Claire Captier, la fille de l'hôtelier Noël Corbu, raconte sur France Inter en 1990.
C'est marqué dans son petit carnet, il a marqué « Découverte d'un tombeau », le 21 septembre 1991. Et à partir de là, on ne sait pas très bien, mais il a continué ses fouilles. Et on pense qu'il a découvert quelque chose d'important. Alors, ensuite, il a fouillé dans le cimetière jusqu'en 1895.
Dans le cimetière, cette
fois. Dans le cimetière, cette fois. Il a été interdit de fouiller par le conseil municipal sur la plainte des gens du village, parce qu'il déplaçait les couronnes, les croix, les os. Il a construit un ossuaire, justement, pour recueillir les os. Et donc là, il cherchait encore quelque chose, sur une indication sûrement d'un parchemin. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à avoir de l'argent et commencé ses travaux.
Après avoir fouillé, cet abbé qui n'a pas le sou devient riche, ce qui lui permet de lancer des grands travaux. Il rénove l'église, il fait édifier une tour très grande, avec des créneaux dans lesquels il installe sa bibliothèque. Puis il achète une grande villa, un joli chemin de ronde et un grand jardin fleuri. Bref, son train de vie change. Et il organise de grandes fêtes, il achète des langoustes, du rhum de Jamaïque. Il se fait aussi livrer des robes de Paris pour Marie Desnardeaux, devenue sa maîtresse. Oui, Saunière mène maintenant une vie qui n'est plus vraiment celle d'un curé, et encore moins celle d'un petit curé de campagne. Toujours est-il que les jardins de ce bon prêtre rural reçoivent désormais des célébrités parisiennes. Il y a un certain Dujardin Beaumetz, l'équivalent du ministre de la Culture, une cantatrice du nom d'Emma Calvé, et même un archiduc autrichien qui porte le nom le plus prestigieux qui soit dans ce pays, Jean de Habsbourg, comme l'Empire austro-hongrois du même nom. Mais que viennent faire ces gens à la table du petit abbé Saunière ? Eva Calvé et Jean de Habsbourg, on le sait, sont adeptes de l'occultisme. Les affaires du curé auraient-elles à voir avec ce genre de choses ? On ne sait pas, là encore. Mais on sait comment fonctionnent les rumeurs. L'abbé Saunière invite des femmes et fait de quelques-unes ses maîtresses. Il organise de beaux dîners. On imagine même des orgies. Et maintenant qu'il a de l'argent, on l'appelle le curé au milliard. Tout cela est très exagéré, bien sûr, des racontars. Mais reste des mystères tout de même. D'où tire-t-il sa fortune, l'abbé Saunière ? Qu'avait-il inscrit sur les parchemins ? Pourquoi a-t-il fait effacer les inscriptions sur cette pierre tombale ? Voilà en quelques questions les racines de la légende. Mais les années passent sans que ces mystères ne se dissipent. Et le 22 janvier 1917, tout comme le mortel à qui officiellement il a consacré sa vie, Saunière meurt d'une cirrhose du foie. C'est moins élégant que sur une croix, et surtout assez peu banal pour un curé. Et pour que le tableau soit complet, ces ultimes instants sont l'objet d'une dernière légende. Le curé venu le confesser serait ressorti de sa chambre parfaitement blême, après avoir appris son secret. L'abbé étant mort, c'est Marie Desnardeaux, sa maîtresse, qui hérite de ses propriétés. Logique. Elle lui survit 36 ans, menant une vie solitaire mais sans dépenses remarquables. Et elle se prend d'affection pour une famille venue lui rendre visite. Il s'agit de Noël Corbu, qui raconte en 1958.
Oui. Qui vous a amené à Rennes-le-Château ?
Oh, le hasard.
Le hasard.
Simplement le hasard.
Et vous avez rencontré Marie Desnardeaux comment ?
Eh bien, ça a été très simple, elle faisait visiter. Et nous sommes entrés en contact par l'intermédiaire d'instituteurs que nous connaissions.
En somme, elle vous a pris sous sa protection.
Et elle nous a proposé tout d'abord de venir passer les vacances à Rennes-le-Château.
Oui.
Et ensuite, après les vacances, elle nous a proposé de nous vendre le domaine et de nous faire ses héritiers, ce que nous avons accepté aussi.
Donc, vous avez vu mourir Marie Desnardeaux en 1953.
1953, oui.
Mais elle ne vous a pas donné son secret.
Elle nous a pas donné son secret.
Que s'est-il passé ?
Bien, elle nous avait laissé entrevoir qu'elle oui. nous le dirait peut-être.
Et Marie Desnardeaux est tombée dans le coma, c'est pour ça qu'elle n'a pas pu vous parler.
Eh bien, Marie Desnardeaux a eu une grippe infectieuse, elle est tombée malade un matin, et 2 heures après, elle était dans le coma, a duré 5 jours dans le coma.
Corbu aurait toqué à la porte de Marie Desnardeaux par hasard, comme un manant qui aurait perdu son chemin, la bonne blague. dans la région. Cette dame est connue pour être la seule dépositaire du secret de saunière. Alors difficile de croire que la démarche de Corbu soit désintéressée. D'autant que c'est un homme qui s'est essayé à l'occultisme, à l'hypnose en particulier. Il a également écrit des romans policiers. Bref, Corbu est quelqu'un qui cherche l'aventure et qui aime raconter des histoires. De ce point de vue, il n'a pas mauvais goût. C'est bien de raconter des histoires. Quoi qu'il en soit, honnête ou pas, il devient l'héritier de la bonne de Saunière, puis le propriétaire, à sa mort, de ce domaine dans lequel il est persuadé que se trouve un trésor. Alors il creuse, lui aussi il creuse, comme dans la fable de La Fontaine, le laboureur et ses enfants. Et si un trésor était caché dedans ? Et il monte son hôtel, l'hôtel de la Tour. Il donne sa version de l'histoire qui fait recette, et en janvier 1956, la Dépêche du Midi publie une série d'articles intitulés « La fabuleuse découverte du curé au milliard de Rennes-le-Château ». D'un coup de pioche, dans un pilier du maître-hôtel, dit le premier papier, l'abbé Saunière met au jour le trésor de Blanche de Castille. Tiens, c'est nouveau ça, Blanche de Castille. Mais quel est son trésor ? Eh bien, c'est un magot qui est remonté au XIIIe siècle. À l'époque, Saint-Louis, ce bon roi qui rendait justice sous un chêne, alors qu'en vérité il a passé son temps à massacrer les musulmans de Saint-Jean-d'Acre et tout ce qui bougeait autour, les fameuses croisades. De son vrai nom, Louis IX est fait prisonnier contre rançon. Sa mère, Blanche de Castille, réunit alors une gigantesque somme. Mais Saint-Louis est tué et la rançon n'est pas versée. Selon Corbu, elle est cachée à Rennes-le-Château. C'est cette histoire que la presse propage. Il existe une photo de Corbu et de journalistes de la Dépêche. Ils sont assis à table. Le journaliste fume un cigare et regarde l'objectif tout sourire. Mais ce n'est pas un reporter venu faire une enquête, non. C'est un homme venu conclure une affaire. Les trois éditions de la Dépêche du Midi atteignent des tirages formidables. Cette histoire passionne. Et les articles se succèdent. La radio rend visite à Corbu et réciproquement apparaissent alors à Rennes-le-Château, remontant la vieille route, les premiers représentants d'une catégorie d'individus particulière qui prend la forme d'une longue procession. Les chercheurs de trésors arrivent au village. Aujourd'hui, le mystère de Rennes-le-Château.
France Inter, affaires sensibles.
Il n'en fallait pas plus pour que notre ami Charroux prenne son détecteur et pénètre dans l'église de notre cher abbé. Le voici maintenant en ordre de marche. Nous approchons près de lui, il se trouve près du bénitier de l'entrée représentant un diable où la tradition ou la légende voudrait qu'un souterrain se trouve... Un souterrain partirait sous les pieds du diable. Vous trouvez quelque chose?
Attendez, vous voyez, éloigné, écarté. Rapproché maintenant. Ah ben voilà. Voilà, c'est la ferraille. Bon alors, on va faire la nef en longueur. Vous passez toujours à la même distance.
En 1963, l'animateur Robert Charroux, celui qui avait interviewé Noël Corbu en 58, vient fouiller l'église de Rennes-le-Château. Mais il n'est pas le seul. Depuis les premiers articles sur le trésor, d'étranges personnages affluent. Ils ont des pelles, des pioches, certains des détecteurs. D'autres déambulent bizarrement en faisant se balancer des pendules. Et bien sûr, c'est l'église qui les attire. Pensez donc, c'est là que Saunière a trouvé les parchemins. C'est dans le cimetière attenant qu'il a creusé. Et les rénovations auxquelles il a procédé sont déroutantes. Une inscription au-dessus de l'entrée donne le ton. Terribilis est locust ist. Terrible est ce lieu. Bon, qu'y a-t-il de si terrible dans cette église? Eh bien d'abord, il y a ce diable, les yeux exorbités qui accueillent les visiteurs, le béniquet sur le dos. Et puis c'est aussi une église pleine de fresques qui contiennent des détails troublants. Que penser par exemple de cette bourse peinte au pied du Christ, au-dessus du confessionnal? Et si Saunière avait laissé dans son église des indices permettant de retrouver la piste de son magot? Rennes-le-Château serait ainsi une carte au trésor géante. Alors les Rennais retrouvent des trous dans leur cimetière et d'autres dans l'église. On fore le sol, on perce des tunnels, on fait sauter des puits, des chercheurs fouillent partout. Et parmi eux, un certain Roland de Mergue qui achète carrément une maison au village et qui creuse des tunnels depuis chez lui. Germain Blandelmas, un Rennais, se souvient au micro de l'émission Le Vif du Sujet sur France Culture.
On entendait le compresseur qui tournait tout le temps, mais on ne savait pas vers où il se dirigeait. Et ça inquiétait les gens, hein. Connaissant M. Dormergue, on disait, mais enfin, que se passe-t-il? Où va-t-il? Que fait-il? On s'est aperçu, nous les jeunes particulièrement, que les arbres du square devant l'église Sainte-Marie-Madeleine devenaient jaunes, se desséchaient. Puis on a remarqué encore plus loin que le fonds baptismaux romain, qui est devant la porte du cimetière, perdait son équilibre. On a dit, c'est pas difficile. On regardait la perspective, et puis venait exactement de la propriété de M. Domergue et se dirigeait vers le cœur de l'église. On a arrêté M. Domergue à 1 mètre des fondations de l'église Sainte-Marie-Madeleine.
En 1965, fatigué, le maire publie un arrêt interdisant les fouilles. Mais il ne s'est pas rendu compte que depuis quelques années se mêlent aux chercheurs des personnages encore plus étonnants. Pierre Plantard, par exemple. C'est un homme d'une quarantaine d'années à la trajectoire, disons, bizarre. Fils de domestique, antisémite, il a milité à l'Action française pour le retour de la monarchie. Équipé de ce logiciel d'extrême droite, il est devenu logiquement collabo et a créé un groupuscule politique à tendance ésotérique du nom d'Alpha Galate. Son but, la rénovation morale de la France et de l'Europe par la chrétienté et par la royauté. Il signe du nom de Pierre de France. Oui, ce Plantard, fils d'une femme de ménage et d'un valet de chambre, serait descendant d'une grande famille française. Et pas n'importe laquelle. Il se présente comme l'héritier des Mérovingiens. Clovis serait donc son ancêtre. Et sans même que la goutte ne fasse déborder le vase, parce que plus c'est gros et plus ça passe. Il ajoute qu'il est le maître d'un ordre secret fondé en 1099, le prieuré de Sion, très proche dans la formulation, en tout cas, du protocole des sages de Sion, ferment de l'antisémitisme. Bon. Plantard est un grand mégalomane, ça saute aux yeux. Et il le confesse d'ailleurs dans le documentaire L'ombre des Templiers en 1979 sur la BBC.
Monsieur Plantard, over the centuries you have supported the Priory of Zion.
Nous avons soutenu Sion. Et Sion nous a soutenus. Nous, je parle de la lignée mérovingienne, car notre lignée est issue de Dagobert II. Les Mérovingiens, ce sont eux qui ont fait la France. Sans eux, il n'y aurait pas de France.
Monsieur Plantard, is there still a secret at Rennes-le-Château?
Mais le secret n'est pas seulement à Rennes-le-Château. Il est aussi autour de Rennes-le-Château. Ici, vous me parlez d'un trésor matériel. Disons simplement qu'il existe un secret à Rennes-le-Château. Il est possible qu'il existe autre chose.
En tout cas, ce descendant de Clovis a le mérite d'être franc. Maintenant, quel rapport entre Plantard et Rennes-le-Château? A priori, rien. Mais Plantard est habile. Et il parvient à mettre l'engouement pour Rennes-le-Château au service de sa démesure. Il a entendu parler d'un certain Gérard de Sède, un journaliste avec une belle plume, mais surtout un romantique, un exalté, un homme qui veut croire aux légendes, un homme qui trouve la vie triste si elle n'est pas remplie de cette sorte de magie. C'est un adepte du surréalisme qui cite souvent une phrase d'André Breton, « L'imaginaire, c'est ce qui tend à devenir réel ». Ce Gérard de Sède s'est passionné pour le trésor des Templiers. Et quand Plantard le met sur la piste de Rennes-le-Château, il se jette sur l'histoire. À la Bibliothèque nationale, il découvre des documents extraordinaires. Des archives montrant que dans ce village des Corbières a été enterré le fils caché du dernier roi mérovingien. Que signifie cette révélation? Eh bien que les rois de France, depuis cette date, c'est-à-dire le 8e siècle, sont tous illégitimes. Et il en va de même pour toutes les couronnes européennes. Autrement dit, c'est l'histoire de l'Europe qu'on révise, rien que ça. Un secret inavouable qui, selon d'autres documents, serait gardé depuis un millénaire par un ordre nommé le prieuré de Sion. Les maîtres de cette confrérie sont des personnages illustres et parfaitement recommandables. Leonardo da Vinci, Botticelli, Victor Hugo et Pierre Plantard. Voilà ce que Gérard de Sède fait imprimer dans son livre d'or de Rennes-le-Château, paru en 1967 et qui devient la Bible des chercheurs. Lettres codées, inscriptions cachées, symboles cryptés, Saunière a laissé derrière lui un grand jeu de pistes qui conduirait jusqu'à des documents prouvant une grande conspiration. En réalité, c'est Plantard qui a fabriqué les documents de la Bibliothèque nationale, se faisant l'héritier Clovis. C'est lui qui a créé le prieuré de Sion et qui s'est donné le rôle de grand maître, succédant à Léonard de Vinci et Victor Hugo. Car cette confrérie ne date pas de 1099. C'est lui qui en a déposé les statuts en Savoie en l'an de grâce 1956. L'escroquerie est évidente. Mais peut-on croire que Gérard de Sède ait bêtement avalé les délires de Plantard? Non. Car c'est un homme prêt à tout pour croire au fantastique. Ce n'est pas incrédule, c'est un rêveur. Et son livre donne une profondeur inattendue aux fouilles des chercheurs qui ne se contentent plus de passer au village, beaucoup s'y installent. Henri Bution, nouveau propriétaire de l'hôtel de la Tour, répond à la télé avec un autre chercheur en 1986.
Vous avez cherché le trésor?
Oui, bien sûr. Il est très difficile de ne pas le chercher, au moins mentalement.
Mais physiquement?
Physiquement aussi, bien sûr, comme tant d'autres.
Vous avez creusé des trous, vous, ici?
Ah oui, énormément. Je pense que nous aurions pu fonder la compagnie métropolitaine de Rennes-le-Château.
De creuseurs de trous de Rennes-le-Château?
Oui, nous avons fait tout un réseau de souterrains dans lequel on pourrait, je pense très facilement, au moins incorporer deux stations de métro.
Le livre de Gérard de Sède ouvre la porte à des théories de plus en plus audacieuses. Et les clés qu'il donne sont interprétables à l'infini. On parle du trésor des Cathares, de celui des Templiers, de Jérusalem, la grande Ménorah à sept branches, volée par les Romains. Face à cette multiplication de théories et à l'invasion de Rennes-le-Château par les chercheurs de trésors, certains tentent de faire valoir tout de même la raison. Effectivement, on s'est bien amusé, passons aux choses sérieuses. Et si la source de la richesse de l'abbé Saunière était beaucoup plus triviale? Autrement dit, si c'était un escroc? René Descadaillas, directeur des archives départementales de Carcassonne, donne son avis en 1974.
L'abbé Saunière a appelé à lui beaucoup d'argent par un trafic de messes dont l'ampleur est considérable. Alors, comment procédait-il exactement? Eh bien, Saunière faisait insérer dans des bulletins catholiques, dans des bulletins paroissiaux, de toute la région, peut-être dans le monde entier, des annonces dans lesquelles il demandait des secours pour reconstruire une église ruinée, pour édifier une maison de retraite à l'intention des vieux prêtres infirmes. Il trouvait moyen de faire venir des messes d'à peu près partout.
Qu'est-ce que le trafic de Metz ? C'est une pratique frauduleuse assez fréquente. Un enfant malade, un époux décédé, des affaires en berne, l'abbé proposait d'y penser dans ses prières contre rémunération. Pardon, quête. En clair, ses prières, Saunir les vendait. Et beaucoup. Tellement même que s'il avait voulu s'acquitter de toutes, il aurait fallu qu'il prie presque 24 heures sur 24 toute sa vie durant. C'est décidément un curieux curé. Mais a-t-il fait assez de trafic pour financer ce qu'il a construit ? Non. Le rationalisme ne suffit pas. Il n'a de toute façon pas de prix sur les chercheurs qui, au fond, viennent à Rennes-le-Château pour chercher du rêve, pas de livre de compte. Et on aurait tort de croire que cette histoire n'est qu'une escroquerie. Saunière n'a sûrement pas trouvé le trésor des Templiers, mais il a trouvé quelque chose, c'est certain. Seulement, la machine au fantasme est lancée, et à la manière d'une avalanche qui absorbe tout et n'en finit plus de grossir, la légende devient hors de contrôle. Et les Anglais vont la pousser encore plus loin. Dans les années 70, trois documentaires sont diffusés à la BBC. Ils sont réalisés par un certain Henry Lincoln. Il explique dans L'ombre des Templiers, diffusé en 1979.
Il y a 10 ans, j'ai posé la question suivante. Béranger Saunière a-t-il vraiment trouvé un trésor ? A-t-il vraiment trouvé un tas d'or perdu ? Je ne crois pas. Parce que Saunière semble plutôt être le gardien de cet endroit qui était extrêmement important aux yeux du prieuré de Saunière. Le vrai trésor de Rennes-le-Château n'est pas fait d'or et de bijoux. Le vrai trésor est un secret.
Bon, Henry Lincoln n'est pas un historien, c'est un scénariste. Il a écrit des épisodes de la série Chapeau, Melon et Bottes de cuir, par exemple, ou de Doctor Who. Dans ses documentaires, il ne cherche pas la vérité. Il assemble des éléments pour constituer l'histoire la plus incroyable du monde. À Rennes-le-Château, Saunière n'a pas découvert que le secret de la descendance des Mérovingiens, il a également découvert celui de la descendance du Christ. Oui, Jésus aurait eu un enfant avec Marie-Madeleine, laquelle se serait réfugiée en Gaule, histoire de ne pas supporter les racontars des voisins, là-bas en Palestine. Et l'enfant qu'elle aurait eu de Jésus, une fille, mais oui, une fille, aurait été cachée là où se trouve Rennes-le-Château, qui garderait depuis le secret. Alors imaginez la réaction de Pierre Plantard, qui, autre proclamé descendant de Clovis, devient descendant du Christ. Il est maintenant un être divin. Belle promotion. Et ce n'est pas tout. Les films de Lincoln et le livre qui suit, L'énigme sacrée, tiré à 2 millions d'exemplaires, achèvent de condamner la tranquillité des Rennais. Ce n'est plus simplement de Toulouse, de Bordeaux, de Paris que les chercheurs affluent. On vient maintenant d'Angleterre, d'Allemagne, de Hollande, avec toujours plus de trous, de tunnels, de voyants et d'hypothèses plus extraordinaires que jamais. En 1990, 40 ans après la bande enregistrée de Noël Corbu, les théories ont évolué. L'émission Chronique Sauvage va à la rencontre d'un chercheur du nom de Michel Gaillot.
On pense que dans la région, il y aurait un temple de l'Atlantide.
Dans ce lieu, il y a quoi ? Il y a la connaissance, il y a un message de paix inconnu des humains aujourd'hui, il y a un trésor, et qu'est-ce qu'on y trouve ?
Dans ce lieu, c'est en quelque sorte, si vous aimez mieux, la connaissance de la loi du cosmos, la grande loi du cosmos, et la possibilité à l'homme de passer dans une autre dimension.
En 2003, 50 ans après la mort de Marie Denardo, la bonne de l'abbé Saunière, c'est un roman qui finit de faire de Rennes-le-Château la capitale mondiale des mystères. Le fameux Da Vinci Code de Dan Brown, qui s'inspire des théories de Lincoln. Le Christ a eu une descendance, et une société secrète, le prieuré de Sion, protège sa lignée depuis 2 millénaires. Mais c'est ballot, Plantard, le descendant auto-proclamé de Clovis, est mort 3 ans avant. Il n'aura pas eu la joie de voir sa Folie des Grandeurs vendue à presque 100 millions d'exemplaires et adaptée par Hollywood. En 1989, à Rennes-le-Château, depuis, c'est le monde entier qui vient creuser. Robert Berland, curé du village, l'un des successeurs de l'abbé Saunière, s'exprime.
Jusqu'à maintenant, tous les gens, Dieu sait s'ils ont creusé, s'ils ont cherché, s'ils ont remué, s'ils ont fait venir toutes sortes de trucs, on a creusé dans un sens, dans l'autre, il n'y a rien. Bon, donc, alors, quand tu as accumulé tous les trésors du monde dans Rennes-le-Château, il y a le temple, il y a la Gobert, il y a, je ne sais pas quoi, Blanche de Castille, on ne sait plus quelle Blanche c'est d'ailleurs. Mais je dis, ça n'a rien à voir avec la réalité. Il n'y a rien à Rennes-le-Château, et dans l'église, il n'y a absolument rien. C'est une église comme les autres. Il n'y a rien à chercher. Et la seule chose qui est intéressante à chercher, c'est quand les gens y sont réunis, ce qu'il y a dans leur cœur. Moi, une fois, je leur ai dit, le trésor, c'est vous.
Eh oui, comme le laboureur de la fontaine qui dit à ses enfants qui ont creusé sans rien trouver, le trésor, c'est le travail. D'ailleurs, les chercheurs veulent-ils réellement le trouver, ce trésor? Après tout, que leur resterait-il après l'avoir enfin débusqué, à part un grand vide? Ce que Robert Charroux, l'un des tout premiers à avoir parlé de Rennes-le-Château à la radio en 58, résume comme suit. Vous le croirez difficilement, et pourtant c'est la vérité profonde du chercheur de trésors. Il a trouvé la fortune avant de découvrir la cachette. Bon, si ça lui convient.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le mystère de Rennes-le-Château dans Affaires sensibles. On en parle avec notre invité Pierre Lagrange. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, rapprochez-vous du micro un petit peu. Vous êtes anthropologue, chercheur associé à l'EHE2S ou l'EHESS. Vous avez étudié la question de ce qu'on appelle les parasciences. Vous avez travaillé sur les ovnis, en particulier sur l'affaire Roswell, sur Nostradamus, sur le Yeti. Et vous avez créé une chaîne YouTube intitulée... Projet Crank, c'est ça? Où vous présentez vos travaux, on en reparlera. Alors j'ai tenté de donner une définition de la parascience, quelle est la vôtre?
Ouais, la parascience, c'est d'abord des débats, ce sont des controverses permanentes. C'est-à-dire ce sont des sujets qui sont très liés à l'évolution de nos sociétés, depuis toujours. En Occident, on a opposé les croyances, les superstitions, et longtemps la vraie religion, et maintenant la science. Donc il y a toujours fonctionné sur ce système d'opposition. Et depuis le XVIIe siècle, depuis les Lumières notamment, XVIIIe, on a continué à dénoncer les superstitions, mais justement en dénonçant ce qu'on a appelé des sciences occultes, et maintenant qu'on appelle des pseudo-sciences. Donc cette idée que les gens élaboraient des théories qui partiraient dans le décor par rapport à ce que la science est capable de démontrer.
Voilà. La raison d'un côté, quoi.
Et puis, alors, justement, un des gros problèmes, c'est ce débat autour de ce que il me semble être une confusion entre la science et la raison. Parce que la raison, c'est... on a hérité ça justement des Lumières, mais il y a un rationalisme chrétien et catholique avant ça. Et or, la science, c'est pas la raison. La raison, on en est tous dotés, en gros. Quand on réduit la science à la raison, on oublie tous les réseaux sociotechniques qui permettent de faire de la science et qui ont transformé concrètement notre rapport au monde.
Alors, ces histoires, on peut les considérer comme des sujets légers, comme celui de Rennes-le-Château. Peut-être qu'ils ne sont pas si légers que ça. Que trouvez-vous, vous, en tout cas, étudié dans cette histoire? Celle-là, puis d'autres?
Oui, ben, moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est la manière dont on construit la marginalité et dont on va se mettre d'accord sur ce qu'est la réalité. Et de la même façon que depuis quatre siècles, on vit dans ce monde qu'on appelle moderne et qui est caractérisé par la manière dont les sciences, depuis Galilée, on va dire, ont envahi nos vies quotidiennes et les ont profondément transformées. Mmh. Avant, on vivait dans un monde qui était religieux. C'était Dieu qui dominait. On se sentirait très étranger si on revenait à la Renaissance ou dans le monde d'avant où on pratiquait la philosophie occulte et autres. Et ce qui fait que les débats se sont recentrés depuis le XVIIe autour de ce qu'on a appelé la science. Le terme est plutôt né au XIXe siècle. Et dans ce cadre-là, évidemment, comme ça a envahi nos vies quotidiennes, tout le monde se sent concerné par les sciences. Ouais. Surtout aujourd'hui, avec la crise écologique, évidemment, ça a envahi toutes les discussions. Ouais. Et donc, on a des débats permanents sur qu'est-ce qu'être scientifique ou pas. Et c'est une des activités qui, alors notamment dès qu'on touche à des phénomènes un peu mystérieux, dont tout le monde a envie de se mêler, où là, ça entraîne des débats sans fin sur de quel côté de la raison on se trouve ou de quel côté de la science.
Et quand vous dites où tout le monde, en tout cas beaucoup de monde a envie de se mêler à cette histoire, entrer dans l'histoire, C'est un besoin de rêve, c'est un postulat qui dirait, bon, la vie est un peu ennuyeuse, on a besoin de rêver, on a besoin de nous frotter à des choses qu'on ne comprend pas et le mystère nous nourrit. Non,
Alors, évidemment, ça peut, mais je veux dire, si vous interrogez n'importe quel scientifique, il vous expliquera que il a fait une carrière scientifique parce que quand il était gamin, il a lu des bouquins comme Le Matin des Magiciens ou des auteurs comme Bernard Reuvelmans qui cherchait le serpent de mer ou le Yeti. Donc, il y a une part de rêve chez tout le monde, y compris les scientifiques. Beaucoup de scientifiques, moi, je me rends compte quand je discute avec des scientifiques, beaucoup de scientifiques sont déçus par leur carrière qui est pleine de bureaucratie, et où ils doivent diriger des laboratoires ou faire de longs rapports administratifs.
Ils sont souvent trouble-fête.
Oui, et alors qu'ils sont venus pour faire autre chose, en fait, souvent. Mmh. Et ouais. C'est souvent, ils se mettent à faire de ce qu'ils estiment être de la science au moment de leur retraite.
Mais les autres.
Et les autres, bah, comme notre vie est totalement structurée par les sciences et les techniques, on réinterprète toutes les histoires qu'on peut inventer ou créer ou construire autour de différents aspects de la réalité, on les ancre par rapport aux sciences. Si on prend l'occultisme, par exemple, au XIXe siècle, on a tendance à penser que l'occultisme, justement, il y a une espèce de grand fossé entre les occultistes, les théosophes, Blavatsky, tous ces gens-là, Kardec qui a inventé le spiritisme, et les scientifiques de l'autre côté, Pasteur, Darwin et tout. C'est pas vrai. La doctrine secrète s'est remplie d'allusions à la science, et l'occultisme du 19e est totalement calé par rapport à l'idée de science et de rationalité.
Alors, qui gouverne, finalement, entre les deux logiques?
C'est une volonté de parler du réel, mais simplement, comme on ne bénéficie pas tous d'une carrière de scientifique, d'une formation scientifique, on peut bricoler le réel. Mais il y a des tas de manières. Je veux dire, ce débat ne se limite pas juste à une opposition entre la science et les pseudosciences. C'est-à-dire que dans le monde dans lequel on vit, il y a l'économie, il y a le politique, il y a la rumeur qui est quand même le régime principal de discussion et de transmission de l'information. Et donc, on a comme ça différentes manières de s'accrocher au réel qui génèrent des discussions. Et dès qu'il s'agit de définir la réalité, on fait intervenir l'idée de la science, de la preuve scientifique, et le débat se porte sur ce genre de terrain. Alors,
vous êtes originaire du sud-ouest du Gers, je crois. Bon, pas très loin de l'Aude, de Rennes-le-Château. Est-ce qu'il y a en pays occitan une prédisposition aux légendes?
Non, enfin, si on cherche, alors les folklores, moi j'ai lu pas mal les folkloristes, c'est Billot, tout ça. La Bretagne, en fait, toutes les régions de France sont très riches en folklore, en histoires de fées, en trésors. Des trésors, il y en a partout. Des commanderies templières, on en trouve partout. Donc,
et les sorcières du Berry aussi.
Voilà. Donc, moi j'ai grandi évidemment avec tout un tas d'histoires, mais j'allais plutôt les chercher chez Jules Verne et à la télévision, on va dire. Donc, certaines de ces histoires, je les ai découvertes plus tard. C'est marrant parce que j'ai passé une partie de mon enfance à passer mes vacances dans la région de Rennes-le-Château. Mais Rennes-le-Château, je l'ai découvert beaucoup plus tard quand j'ai fait mes études et quand je me suis intéressé à ces sujets-là. Et donc, évidemment, après, quand il y a eu la Vinci Code, là, c'est devenu un débat quasiment interplanétaire. Donc, ça a dépassé la région.
Alors, justement, ces histoires-là, est-ce que Rennes-le-Château est un morceau de choix pour vous?
Alors, c'est un sujet sur lequel je suis venu parce que d'autres écrivains que je suivais pour d'autres raisons, notamment pour les débats sur les ovnis, je voyais que régulièrement ils citaient ce genre de sujet. Et donc, comme tout anthropologue, je suis les acteurs et je regarde dans quelle direction ils me conduisent. Et dans les années, à la fin des années 90, moi j'ai commencé à travailler sur ces questions quand j'ai commencé mes études dans les années 80. À cette époque-là, c'était un sujet qui était, il y avait eu toute une littérature. Mais il n'y avait pas un intérêt académique, on va dire. Il n'y avait pas le débat qu'il y a maintenant. C'est-à-dire qu'à partir des années 95, on vit un clivage. C'est-à-dire qu'on entre dans ce qu'on appelle le complotisme.
Oui, j'allais vous en parler juste avant.
Voilà, et on entre dans une époque où l'ensemble des débats de société vont être structurés à travers cette idée de complotisme. Ouais. Avant 95, c'était des sujets relativement marginaux. On s'y intéressait de temps en temps quand on faisait des sondages d'opinion. On découvre que les gens croient aux soucoupes volantes ou des trucs comme ça. Mais à partir de 95, la série X-Files, le succès de la série X-Files, et jusqu'au début des années 2000 avec le Da Vinci Code, justement, on entre dans une décennie qui va se restructurer autour de cette idée que les gens ne sont pas simplement crédules et irrationnels, mais sont complotistes, ce qui est un niveau de débat complètement inédit.
Oui, parce que ça poursuit un objectif précis, souvent.
Ben, c'est-à-dire que, alors, il y a deux aspects. Il y a évidemment les théories complotistes, on va dire, qui sont élaborées, mais ça, c'est pas nouveau. Vous parliez tout à l'heure.
Le protocole des sages de Sion.
Voilà, les protocoles des sages de Sion. C'est une œuvre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans les années 20-30, quand on débat des protocoles des sages de Sion, on débat de leur authenticité. Le débat ne se porte pas sur le complotisme. C'est très rare, les auteurs. Ce débat-là, cet argument qui consiste à dire est-ce qu'on est complotiste ou pas, il naît vraiment dans les années 90. Par exemple, en 1960, quand Le Matin des Magiciens, qui est un ouvrage qui a réformé profondément ce qu'on appelle les pseudosciences et le paranormal, est publié, il crée un débat pendant 10 ans. Aujourd'hui, quand on lit Le Matin des Magiciens, c'est un ouvrage complotiste du début à la fin. Pendant les 10 ans où il est débattu dans les années 60, on n'emploie pas le mot complotiste. Donc, vous voyez, le débat s'est profondément transformé. Et il s'est transformé en partie, parce que les années 90, c'est non seulement le succès d'X-Files, de Roswell, puis de Da Vinci Code, c'est également le début des révélations sur la crise écologique et la manière dont l'industrie a menti. Si vous regardez certains épisodes d'X-Files, vous avez les extraterrestres et les OGM, les manipulations du climat et tout ce qui s'ensuit. Donc vous avez l'ensemble de ces sujets, vous avez l'écologie et les parasciences.
Alors, à ce sujet... Donc la motivation des gens qui entrent dans cette logique, on va écouter un chercheur de trésors, il s'appelle Jean-Claude Debrousse, il est interrogé par Irène Omelianenko pour le vif du sujet sur France Culture, c'est une interview qui remonte à l'année 2002.
C'est des rencontres qui vous font rester sur... Il n'y a pas que le trésor, c'est une histoire de personnage, une histoire d'ambiance, c'est ça l'histoire. C'est toute une ambiance, Rennes-le-Château, en fin de compte. Comme disait Jean-Luc Robin, on serait vraiment triste si on trouvait le trésor. Parce qu'on n'aurait plus grand-chose après, quoi. Moi, je dis nous, par exemple, j'organise le 17 janvier de cette année une rencontre où on va être une centaine...
17 janvier 2003.
Oui, oui. On va être une centaine, en gros, de personnes qui viennent un petit peu de, on va dire, de l'Europe, quoi. Où on va parler de cette histoire de Rennes, en faisant une expo sur Boudet, mais c'est le prétexte pour se rencontrer, parce que le 17 janvier, c'est une date qui découle du déchiffrage d'un parchemin, voilà, on va dire.
C'est intéressant d'un point de vue sociologique, ça aussi. Hein.
Oui, alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette espèce de fossé qui s'est creusé entre les deux, entre cette idée de raison et d'irrationnel. Mmh. Et la caractéristique de beaucoup de ces sujets, Rennes-le-Château ou autres, c'est précisément ce que dit la personne qui intervient, c'est que c'est des sujets qu'on ne peut pas arrêter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on va se mettre d'accord sur une vérité qui va devenir universelle, on va dire. Le travail des scientifiques, c'est précisément de se mettre d'accord. Si en science, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on abandonne le sujet, parce que précisément, on ne peut rien en faire. Le but du travail des scientifiques, c'est de faire évoluer la société, on va dire. Donc, on a tout un tas de sujets qui, généralement, se retrouvent exclus des sciences, parce que précisément, on n'arrive pas à conclure. Le serpent de mer au 19e siècle, il y a une époque où on pensait quasiment qu'on l'avait démontré son existence, et puis il n'a pas arrêté de glisser des mains comme une savonnette, et on a fini par l'abandonner. Parce qu'on ne le trouvait pas, finalement. Mais le débat a continué, lui. Dans les années 60, on publiait encore d'énormes livres, Bernard Revellement, sur le serpent de mer, alors qu'il n'y avait plus de scientifiques qui le cherchaient.
Alors aujourd'hui, l'astrologie revient à la mode, comme la sorcellerie, la voyance. Qu'est-ce que ces résurgences, à votre avis, disent de notre époque ?
Ça montre qu'en fait, on est dans un monde... où on n'a plus de vérité commune, de réalité commune. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé mes études, on était dans un monde où, en gros, à peu près tout le monde était d'accord, je dirais, sur la définition du monde, de la réalité commune. C'était l'héritage, justement, des 4 siècles de science et des Lumières. Aujourd'hui, on est dans un monde où la moindre discussion à table en famille, ça finit en engueulade, parce qu'on ne sait plus du tout comment définir le réel. La crise écologique est venue nous révéler quelque chose sur notre société et sur la manière dont nous avons traité le reste de la planète qui nous saisit et qui fait qu'on ne sait plus entre la manière dont nos vies quotidiennes sont conduites à travers le mode capitaliste, on vit dans un monde capitaliste, et les scientifiques qui nous disent que ce modèle capitaliste ne convient plus pour vivre sur cette planète, si on ne veut pas arriver à une planète inhabitable, comment voulez-vous qu'on s'y retrouve ? Donc on a plus que jamais besoin de chercher d'autres solutions et d'inventer, je dirais, une nouvelle cosmologie.
Oui, mais on s'y retrouve, si on prend le dérèglement climatique, les scientifiques du GIEC et d'autres, apportent des preuves. Là, il y a quand même la notion de preuve. Donc, oui. Donc la façon de s'y retrouver, c'est peut-être d'aller du côté de la preuve, donc du côté de la raison.
Oui, mais regardez, alors, justement, si on prend cet aspect-là, le problème aujourd'hui, c'est pas Rennes le Château, qui est une histoire sympathique, à part Plantard, qui est quand même un peu spécial, on va dire.
Oui, mais la logicielle idéologique n'est pas forcément fréquentable.
Tout à fait. Mais justement, aujourd'hui, la superstition, c'est quoi ? C'est notre mode de vie et notre modèle économique qui nous conduit dans le mur, qui nous conduit vers ce que les scientifiques du GIEC nous expliquent. Un monde à 4 degrés, il est invivable. Donc on a un vrai problème, c'est-à-dire que le modèle qu'on nous a présenté, dans lequel on a grandi, qu'on nous a présenté comme étant le modèle qui constitue la réalité commune, on se rend compte qu'on doit l'abandonner pour autre chose. Mais pourquoi ?
C'est la question. Est-ce que vous en parlez dans Projet Crank? Alors, Projet Crank, c'est votre chaîne YouTube. Alors, en quelques secondes, qu'est-ce qu'on peut y trouver?
L'idée, c'est en fait de faire sous forme de vidéo, de présenter un certain nombre de sujets sur lesquels j'ai travaillé, l'histoire des ovnis et d'autres sujets de ce genre, le triangle des Bermudes, enfin tout ça. Et donc, c'est de... Parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, si on donne des textes à lire, en gros, les gens préfèrent regarder des vidéos. Et moi, j'étais souvent sollicité par les médias, souvent un peu déçu par la manière dont certains documentaires étaient faits. Et donc, mon idée, c'est d'essayer de trouver une manière de raconter ces histoires en images.
Bien, merci infiniment, Pierre-Evrange.
Merci à vous.
Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, secrète de Rennes-le-Château aujourd'hui. L'émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, il y avait Guillaume Roux.